ça arrive. C'est bon. C'est avec ça et ça. Et le micro est là.
D'accord, merci. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Merci d'être là. De toute façon, jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. Je suis désolée, ma jeune collègue ne pouvait pas venir pour des raisons personnelles. C'est dommage pour vous parce que c'est vraiment elle qui est la spécialiste de la représentation des corps dans les médias. Et vraiment, notre présentation est beaucoup orientée vers la présentation des corps dans les médias. Donc, nous avons essayé de faire une analyse comparative des deux L qui sont publiées au Canada. L Québec, qui est la plus ancienne, et puis L Canada, comme telle. Nous sommes concentrés particulièrement sur les modèles structurants des deux numéros, des contenus. De la représentation des corps, évidemment, masculins et féminins dans les images. Et puis, finalement, on a aussi regardé les chroniques, articles qui étaient publiés dans chacun des numéros. Alors, en nous référant au concept de performativité de Judith Butler, nous avançons dans cette présentation que le corps n'est pas seulement un objet physique, mais est socio-culturellement construit au moyen d'activités qui circonscrivent les limites de la féminité et de la masculinité. Butler affirme que les performances sexuelles et de genre gender, je ne sais pas trop comment traduire ça, qui émergent de pratiques corporelles, telles des actes, des gestes, des postures répétées, suggèrent l'existence d'un sexe naturel, en partie parce qu'elles sont produites dans des cadres réglementaires qui aident à les façonner. Alors, les médias comme Elle, par exemple, le magazine Elle, font partie de ces cadres réglementaires-là, qui naturalise les inégalités de sexe et de genre. Et en même temps, le concept de performativité sexuelle de Butler, c'est ça qui est intéressant dans son concept, en fait, inclut son contraire également, c'est-à-dire la possibilité de résister à ces cadres réglementaires par des pratiques corporelles qui corrompent les normes conventionnelles de sexe et de genre. Alors, je vais vous donner des exemples. Je dis nous parce qu'on l'a vraiment écrit ensemble. Donc, pour étudier ce genre de comportement et de représentation, nous avons pris Elle Canada, Elle Québec. En fait, publications les plus généralistes de Elle au Canada, parce qu'il y a Elle Girl, il y a Elle Man, on a pris Elle Québec, qui a été fondée en 1988. Voilà. Et Elle Canada, qui était, lui, lancé en 2001. Et vous avez ici les deux couvertures originales des premiers numéros, donc Elle Québec en 88 et Elle Canada en 2001. Et Elle Canada en 2001, qui a été lancé, ça s'appelle ici Summer 2001. Et pour Elle Québec, c'était juin de 2001. Et c'était exactement la même couverture. C'est la seule fois qu'on a eu exactement la même couverture de Elle Québec et Elle Canada. Parce qu'après ça, toutes les couvertures étaient différentes. Donc, nos analyses comparatives, on a pris un échantillonnage entre 2001, qui était l'année de la fondation d'Elle Canada, et 2015. Et on a regardé particulièrement les mois de juin, décembre et finalement novembre. Vous allez voir plus tard pourquoi on a pris novembre. Alors, contextuellement, en général, la structure des deux magazines qu'on a regardés, canadiens et québécois, est vraiment similaire à d'autres magazines de mode, finalement. C'est-à-dire beaucoup de publicité pour commencer. Je pense que quelqu'un a parlé ce matin de presque 50% en tout. Pour beaucoup de publicité, pour commencer, une large partie du contenu qui est réservé à la mode, ça c'est assez normal, évidemment, de tout genre. vêtements, accessoires, ustensiles de cuisine même, ce genre de trucs-là, suivi par l'éditorial, les chroniques et des articles sur des sujets spécifiques. Alors, la couverture est assez standard et reflète généralement la subjectivité de la personne représentée, c'est-à-dire qu'elle vous regarde, elle est là, d'accord? Alors, on appelle ça « agency » en anglais, on le traduit par « subjectivité ». Par contre, la carte de couvre, la dernière page derrière, c'est toujours de la publicité, toujours une annonce publicitaire. Alors, en termes de longévité, le premier numéro de Elle est apparu en 89, comme je vous ai dit, et de Elle Canada en 2001. On peut penser que la relation très étroite France-Québec a peut-être influencé la venue de Elle Québec plus tôt que Elle Canada, alors que pour Elle Canada, il y avait Elle US qui avait été lancée en 1988, un an avant Elle Québec. Et évidemment, la culture anglophone canadienne et américaine sont très, très proches. Donc, ça a pris plus de temps avant qu'on se rende compte que peut-être ce serait une bonne idée d'avoir un numéro Elle Canada. En termes généraux, les deux magazines canadiens adoptent des stratégies de représentation du corps communes aux magazines de mode. Là, on a trouvé quelques exemples. Donc, il y a les femmes qui sont construites comme des objets. Vous avez ça ici. Il y en avait une qui est dans un flacon de parfum, en fait, dans lequel. Et à droite, vous avez Lady Gaga, et il y a des gens qui montent dessus comme si c'était une sculpture. Ensuite, il y a peu de subjectivité, affichant, évidemment, fragmentation des corps, ça, vous l'avez partout, hein, je suis sûre que les gens qui travaillent. Alors là, on voit juste les jambes, on voit, qu'est-ce que vous avez là? Ah, j'en vois. Vous n'avez pas la deuxième partie ici, juste une... Ça, c'est, ah, est-ce que c'est nécessaire de voir juste les seins? Bon, c'est une autre histoire. Gros plan sur les parties sexuelles, comme ça. Pose subjective, ça c'est une autre chose qu'on voit très souvent dans les images. Alors que les hommes sont montrés de façon beaucoup plus, beaucoup plus de subjectivité en général, comme quelque chose comme ça, par exemple, que vous avez ici. Vous voyez, il est en train quand même de faire quelque chose, il vous regarde, bon. Mais il y a quelques exceptions quand même, on l'aime beaucoup celle-là, je te vois, on l'a beaucoup aimé. Ah non, elle n'est pas là. Oh, quelle horreur. Bon. Alors. Bon, on va la voir plus tard, j'espère. Si elle n'est pas là, là, je vais arrêter de parler tout de suite. Sur le plan des contenus, les magazines canadiens et québécois sont assez similaires. Vous avez, par exemple, les chroniques Célébrité, Santé, Health, Voyage, Travel, Vie culturelle, en anglais, ils appellent ça Radar, mais c'est la même chose. Alors, pour l'analyse comparative... nous nous concentrons plus sur la performativité du corps dans les deux types de contenus, canadien et québécois, sur la section de la mode particulièrement, évidemment, sur la publicité et finalement sur les chroniques. La mode représente la chronique la plus extensive, à part la pub, évidemment, là. Mais ce n'est pas une chronique. La chronique de la mode elle-même présente est la plus extensive de chacun des magazines et elle varie entre 20 et 40 pages. Il n'y a aucune publicité. C'est intéressant parce qu'on a aussi jeté un coup d'œil à Elle US et puis ce n'est pas du tout la même structure. Elle US est une structure complètement différente. Si vous voulez, je vous en parlerai après, mais alors que Elle Canada, c'est exactement la même mode, les mêmes modèles, les mêmes vêtements qui sont montrés dans les deux numéros le même mois. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire de dépenses supplémentaires pour pouvoir présenter la mode, des modes différentes dans chacun des numéros. De plus, la performativité féminine s'inscrit dans des stratégies généralement assez pudiques. On était surprise, en fait, on s'attendait à ce que dans Elle, il y a des... Bon, mais en général, c'est assez pudique, comme on voit ici. pardon. Mais il y a quand même des thèmes un peu plus précis, comme les thèmes romantiques, celui-là qu'on voit ici, ça, ici. Ensuite, sexuel. Ça, quand même, c'est assez invitant. Finalement, les plus courants, c'est quand même sensuel, comme celle-ci ou celui-là. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de ça. On appelle ça sensuel parce qu'elle est l'invitation par le regard ou encore par la pose, la posture qui était adoptée. Il y a quand même des exceptions. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, nous, du porno chic. Comme ça. Ou encore, ce qui est appelé en anglais, je ne sais pas si le mot se dit en français, heroin chic. Hein? Ça va? Bon, c'est ça. Alors, ça, c'est ça. C'est, disons, ça fait penser à heroin chic, parce que ce n'est pas exactement ça, mais ça y fait penser. Si vous remarquez, il y a très peu de ces postures féminines-là qui vraiment ont ce qu'on appelle, comme je vous disais en anglais, de l'agency, qui a vraiment de la subjectivité, c'est-à-dire qu'il faut... Et j'ai remarqué, où est-ce qu'elle est, celle qui vient? J'ai remarqué que dans celle de elle, vous avez montré des images où la femme vous regarde, elle est là, elle dit « bon voilà, je vous présente ça ». Mais ici, dans les deux magazines canadiens, ça arrive très, très peu souvent. C'est toujours des trucs à peu près comme ça. La publicité est par contre omniprésente dans les deux magazines. Elle n'est pas exactement la même chose. Quelquefois, un produit est présenté de façon différente dans les deux magazines, mais c'est très rare. Mais ce qui arrive quand même assez souvent, c'est que la publicité d'un produit est dans un endroit différent dans le L Québec et dans le L canadien. Donc, c'est comme par exemple la publicité avec, je ne sais pas si c'est ça que j'ai ici, non, qu'on a vu avec Gainsbourg, par exemple. Elle était au début du L Québec, alors qu'elle était à la toute fin du L Canada. Donc, les publicités ne sont pas exactement au même endroit. Par contre, les publicités... ne sont pas seulement au début, comme je vous disais tout à l'heure, mais elles sont tout au long des deux magazines, de sorte que, bon, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle, elles sont intégrées hein, au contenu, et il y a des moments, vraiment, on ne sait plus si c'est une publicité ou encore si c'est un modèle qu'on nous montre. Et ça correspond tout à fait à la notion de ce que... Raymond William appelle « media flow », c'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est le contenu et qu'est-ce qui est la publicité. Par contre, il est intéressant de noter qu'à ses débuts, Elle Canada a publié des pubs qui sont quand même plus osées. Ça nous a étonnés, parce qu'on était parti au début en disant « Elle Canada va être beaucoup plus puritaine et beaucoup plus pudique ». Eh bien, au début, non. Alors, Elle Canada est arrivée avec des publicités plus osées que Elle Québec. Une publicité comme ça, par exemple, ou ici. Mais au bout de deux, trois numéros, ça s'est disparu. Ils sont revenus avec des publicités beaucoup plus pudiques, disons. Mais un bon exemple... Ici, vous avez encore un exemple de Elle Canada, quand même, pour de la publicité. Ça, on voyait pas ça. On n'a jamais vu ça dans Elle Québec. C'était Elle Canada au début, particulièrement. Et puis, l'évolution des publicités dans Elle Canada, allant du plus osé au moins osé, était vraiment très, très clair avec le produit Always. Je ne sais pas si vous avez ce produit-là en France. Alors, ça, c'était la première image qui était montrée pour le produit Always dans Elle Canada. La deuxième était comme ça. Et puis, la troisième, finalement, ça donnait ça. Alors là, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, Il y a quand même des différences culturelles, comme vous voyez, entre les deux, mais je crois que les différences, nous croyons que les différences culturelles se sont montrées surtout dans les chroniques et dans les articles. Par exemple, les articles dans Elle Québec étaient beaucoup plus longs et beaucoup plus substantiels, beaucoup plus approfondis. Et ils n'étaient pas nécessairement orienté autour des performances corporelles. Un bon exemple, c'était un très long article sur les seins. Je pense qu'il était 4 ou 5 pages complètes sur les seins. Et ça n'était pas seulement, par exemple, la chirurgie plastique sur les seins, mais c'était aussi sur le cancer du sein. Et on faisait des entrevues avec les spécialistes et tout. Donc, c'était un article très sérieux qui n'a jamais paru dans Elle Canada. Elle Canada, les articles étaient beaucoup plus superficiels. On prenait au plus 2 pages et encore là, c'était très rare. Un autre article qui était intéressant dans Elle Québec, c'était un article sur Internet dernièrement, évidemment. Et puis, on essayait de comprendre, on essayait d'interviewer des psychologues, des sociologues, etc., et essayer de comprendre quel était l'impact de l'usage d'Internet sur les couples. Donc, c'était quand même assez intéressant. Aussi, sur le plan culturel, Elle Québec montrait des artistes dans sa vie culturelle et radar. Il montrait des artistes, beaucoup d'artistes québécois, quelques artistes canadiens, très, très rarement d'artistes américains, artistes et auteurs, alors que dans Elle Canada, c'était aucun artiste québécois. Quelques artistes canadiens et beaucoup d'artistes américains. Donc, sur le plan culturel, il y avait une très grosse différence entre les deux. J'aimerais vous parler de la place des hommes dans Elle, très brièvement. Je vous en parle parce qu'il y a une grosse différence entre Elle Québec et Elle Canada. Elle Canada a commencé à publier, on a remarqué que même en France, à Hong Kong, Vietnam, Mexique et Canada, pour Elle Canada, il y avait un Elle Homme qui était publié au mois de novembre, mais c'était un numéro complètement différent de celui d'Elle Ordinaire. Pour le Elle Québec, les hommes étaient intégrés à l'intérieur du numéro ordinaire et non pas seulement intégré dans une section spéciale, mais il y avait bon quelques pages, 4 ou 5 pages qui parlaient de l'homme qui était invité pour décrire qui il était, mais après c'était intégré ici et là dans le magazine. Donc, c'était pas une section spéciale. Donc, si vous vouliez lire les hommes, ben il fallait feuilleter tout le magazine. Donc, ça, c'est une différence quand même assez intéressante. Et cette intégration sociale qui s'exprime tout au long du contenu magazine québécois, non seulement dans une section spéciale, suggère, nous pensons, en tout cas, nous argumentons, une spécificité de la culture québécoise qui semble considérer les modèles, le sujet, lectrice, comme des personnes et non comme des catégories particulières et discrètes. Et elle contraste évidemment avec la séparation totale du magazine Man dans le Elle Canada, qui offre un contenu sur une normativité de genre plus marquée que celle du Québec. En fait, il y a très très peu de représentation masculine dans Elle Canada généraliste, sauf dans quelques pubs et photos, et les hommes sont presque toujours accompagnés par des femmes, ce qui renforce évidemment la normativité hétérosexuelle dans ce magazine. Alors, étant donné la situation exceptionnelle de la représentation des hommes dans Elle Québec, on a voulu s'y attarder un peu plus longtemps. Alors, je ne sais pas où je suis rendue dans mes... Il n'y a pas de numéro. Hein? Ah oui, il y en a du... C'est en bas ici? OK. D'accord. Alors, on voit, là, je suis un peu fatiguée. Dans les postures, ici, vous avez encore là beaucoup de subjectivité dans le c'est pas un modèle, si vous voulez. L'homme vous regarde, Il vous dit, bon, vous achetez ça. Donc, il y a beaucoup de subtilités. Et bon, je vous parlais de l'exception tout à l'heure que je n'ai pas réussi à trouver. Là, je vais l'avoir. Voilà. Alors, ça fait plutôt féminin en termes de présentation parce que vous avez vu la femme tout à l'heure. Ça, c'est un peu la même chose. C'est aussi, on l'a développé comme un cadeau. Ça vous fait penser, vous savez, aux femmes qui sortent d'un gâteau dans des anniversaires. C'est un peu la même chose. Donc, pour quelques raisons, ils ont montré, ils ont fait une publicité dans ce genre-là. Alors, pour ce qui est de El Québec, parce que c'est ça qui est intéressant, quand ils ont commencé, la première fois qu'ils ont intégré les hommes dans le numéro ordinaire, ils ont invité une star québécoise qui s'appelait Patrick Huard, qui est très connue au cinéma, au théâtre, à la télévision, même dans les pubs. Et ils l'ont même invité à écrire l'éditorial du numéro. Alors, c'est lui-même qui avait écrit l'éditorial du numéro. Et cela semble lui avoir permis une performance indubitablement de son cru, transpirant la performativité machisme dominante. Alors là, vous l'avez dans son lit. Et ça, vous l'avez tout habillé dans la douche. Et on n'a pas constaté ce machisme-là dans les autres numéros où on présentait des hommes aussi, mais de façon très différente. Alors, ce numéro-là est le seul numéro où on a permis à l'homme qui est invité d'écrire l'éditorial. Après, l'éditorial a été écrit par les éditrices habituelles. Et aussi, on n'a jamais représenté les hommes de façon aussi machiste que celui-là. Au contraire, on semble avoir voulu se faire pardonner, ou je ne sais pas trop quoi, mais on a présenté des hommes qui faisaient une performativité résistante, si vous voulez, dans le sens que Butler utilise, parce qu'on les a représentés comme ça, associés plus à la fémininité, qu'à la masculinité. Alors, vous avez celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, vous le voyez bien. Ouais, c'est intéressant, hein? Alors, et les deux autres, il y en avait quatre qui étaient invités, donc voici les deux autres. Donc, ça correspond tout à fait à ce que Butler appelle la performativité résistante, c'est-à-dire que vous utilisez des postures qui vont à l'encontre de ce qu'on attend sur la performance dominante. Donc, est-ce que c'est une décision éditoriale québécoise qui se voulait provocatrice ou encore peut-être réparatrice, rédemptrice, parce qu'il y avait peut-être eu des... Ça, on ne sait pas, on n'est pas allé assez loin pour savoir ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le spécial homme a arrêté d'être intégré dans novembre, ce novembre-ci. On a acheté le mois de novembre et puis pas plus de spécial homme dans le L Québec. Alors, en conclusion, comme vous pouvez le constater, il y a quand même des similarités, mais il y a quand même beaucoup de différences entre El Québec et El Canada. De plus, contrairement à El Québec, El Québec va fréquemment au-delà de la superficialité de la mode et de la beauté du corps et offre des chroniques souvent beaucoup plus approfondies et des sujets aussi socioculturels récents, du jour. Cette position aide le magazine à prendre la distance par rapport au corps et à se rapprocher de l'aspect subjectivité de la personne, pour les femmes en tout cas, sinon dans les représentations visuelles des femmes, du moins dans certains articles. Cette stratégie lui donne la possibilité d'ouvrir un espace faisant place à une intégration de la féminité dans la masculinité, comme vous voyez ici, comme ça, construite sur une performativité suggérant la résistance, comme en fait foi ces photos-là. Mais nous, en tout cas, on aimerait que cette stratégie utilisée pour représenter les corps féminins dans des publicités soit adoptée, ce genre de stratégie-là, parce qu'on a, presque constaté comme une schizophrénie entre, surtout dans Elle Québec, entre le sérieux des articles et des chroniques et la façon de montrer les femmes comme objet dans les photos de mode et dans les publicités. Merci.